Il se présente comme professeur voyageur et ingénieur aventurier, mais avant de se connaître, Claudine et Olivier avaient déjà le goût du voyage, puisque sans le savoir, ils ont sillonné les pistes mauritaniennes en 2005. Depuis, ils ont vécu ensemble la maladie d'Olivier, mais le projet de partir n'a pas disparu, et les voilà à nouveau sur la route, direction la Mongolie. Vous êtes sur RCF Saint-Étienne dans l'émission Carte Blanche. Claudine et Olivier, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes sympa parce que vous êtes venus nous voir ici en studio quelques jours avant votre grand départ pour la Mongolie. Vous allez retourner pour cela dans votre ville, la ville où vous travaillez actuellement, Nice. Et puis vous allez donc partir et vous allez nous expliquer ça. Mais le voyage, effectivement, pour vous, c'est pas quelque chose de nouveau. Partir en Mauritanie, c'est un pays assez fascinant, je crois, mais pas forcément facile. Claudine, Olivier, Claudine.
Oui, alors la Mauritanie, c'était un voyage que l'on n'a pas fait ensemble, d'ailleurs, à 2 ans d'écart. Mais c'est un voyage qui nous a fait nous rencontrer, finalement. C'était un pays pas forcément facile. Et c'est vrai, c'était le désert et on aime bien tous les deux ce côté désert. Et d'ailleurs, on y retournera dans un an. C'est notre deuxième périple, l'Afrique, par le désert.
Vous l'avez fait comment ce voyage en Mauritanie, vous Claudine ?
Moi, je l'ai fait avec une de mes sœurs et une amie. Toutes les trois, on est parties au mois d'août. On avait quand même un guide sur place qui nous a fait sillonner le pays parce que pour se déplacer, pour s'organiser, c'est pas toujours évident. Mais voilà, c'était plus
trois
ou moins...
Trois filles, donc
voilà, trois filles.
Mais pas par une agence,
pas par une agence. C'est nous qui avions regardé un peu les endroits où on voulait aller en Mauritanie. Et puis...
Et c'est raisonnable de partir comme ça, finalement relativement isolé, faisant confiance à un guide sur place.
Oui, moi j'ai toujours aimé en fait les voyages en autonomie. Là, on a pris un guide pour plus de sécurité et puis pour avoir le temps de faire les choses qu'on voulait faire. Mais c'est oui, l'autonomie, vivre dehors, etc. Ça a toujours été des choses qui m'ont attirée. Et à trois, c'était surtout le climat, la chaleur du mois d'août qui était difficile, mais sinon pas le fait de vivre dehors et pas du tout d'insécurité là-bas.
Le souvenir marquant peut-être que vous gardez, peut-être difficile parce qu'il y en a sûrement plusieurs, mais ou un lieu ou
Alors moi ce serait peut-être l'expérience du train du désert parce que j'aime bien voyager en train et que ce train était un peu mythique pour moi. J'avais vu des reportages dessus et j'ai adoré, même s'il y avait de la poussière, du bruit, des grincements, cette nuit dans le train était formidable pour moi, un bon souvenir.
Alors Olivier, vous, la Mauritanie, qu'est-ce qui a fait que vous y êtes parti ?
Le désert aussi, désert. Je connaissais pas le désert, j'avais l'occasion d'aller déjà quelques fois en Afrique, mais jamais aussi au nord. Donc oui, moi c'est ce que j'avais envie de couvrir.
Et vous êtes parti, vous, dans les mêmes conditions que Claudine,
c'est-à-dire
en autonomie pareillement.
Ça, ouais. On a ça en commun par rapport au voyage, notre façon de voyager. Moi j'étais parti tout seul à cette époque-là, donc j'avais pris un billet d'avion et puis j'étais arrivé à Nouakchott avec en tête un ou deux lieux de la Mauritanie qui
faisaient...
Oui, j'étais seul, ouais. J'étais seul. Donc j'avais comme ça un ou deux lieux qui m'attiraient particulièrement et puis après j'avais essayé de les rejoindre, ce qui n'est pas une mince affaire dans la Mauritanie parce qu'il y a peu de moyens de locomotion en commun, de transport en commun. Donc voilà, et c'est comme ça que j'avais fait mon petit parcours d'un mois là-bas, dans le désert.
Et vous aussi, un souvenir qui vous est resté particulièrement ?
Alors moi j'ai eu pas mal de péripéties. Un qui m'a marqué en particulier, c'est d'être tombé en panne dans le désert. On était parti pour faire, je crois, 400 km avec un taxi brousse. Et puis le taxi est tombé en panne, ça faisait 2 jours qu'on roulait. On n'avait croisé aucune voiture en 2 jours. Et on a passé comme ça 3 jours à attendre que quelqu'un passe pour nous récupérer et puis aller chercher la pièce qui manquait pour réparer la panne du taxi. Donc ça m'avait un peu... Ouais.
Pas d'angoisse, si, un petit peu quand même.
Un peu, ouais. En fait, c'est-à-dire qu'on était nombreux dans ces taxis, on arrive à rentrer très nombreux, donc on était à peu près 10, tous des gens du désert qui, eux, sont équipés, ils sont pas inquiets parce qu'ils savent que ça peut durer, donc ils prennent ça avec beaucoup de philosophie et c'était assez rassurant de les voir, eux, ne pas s'inquiéter.
Voilà, donc quand même une expérience certaine par rapport à, au voyage lointain, au voyage en autonomie. Et cette idée d'avoir raconté, puisque vous l'avez mis par écrit, vos deux voyages respectifs, ça donnait un petit journal qui est un avant-goût de ce que vous allez pouvoir nous donner avec ce voyage qui se profile là pour dans quelques jours. Pourquoi ce besoin d'avoir mis par écrit et concentré un petit peu vos expériences respectives?
Ça, c'est vrai que l'un et l'autre, on a toujours fait ça dans nos voyages. On a un petit carnet de route, en fait, et chaque jour, on essaye de remplir un peu les faits marquants de nos journées, ce qu'on a fait, ce qu'on y a rencontré, et puis des infos un peu pratiques sur combien nous a coûté une course en taxi, combien nous a coûté, pour, je crois, le relire aussi après, dans les années passant. On est content de se replonger dans les voyages qu'on a fait il y a 5 ou 10 ans. C'est un truc qui nous a plu. Et puis ben voilà, ça nous a donné l'idée aussi sur ce long périple qu'on s'apprête à faire de formaliser un peu plus tout ça pour qu'on en ait une trace et un rendu qu'on puisse faire partager aux gens qui ont envie de nous suivre.
Claudine ? Oui, ce journal, c'est aussi... Donc ça va être un journal mensuel qu'on propose donc à ceux qui souhaitent s'inscrire, qu'on va distribuer en format papier. Donc nous, on aura un petit ordinateur en voyage sur lequel donc on écrira ces articles. Alors ce sera nos impressions, ce sera nos anecdotes, mais ce sera aussi des recettes de cuisine, des descriptions, enfin nos descriptions du pays telles qu'on les ressent.
Des photos ?
Des photos. Alors des photos, oui, parce que moi j'aime bien faire de la photo, voilà. Et donc c'est vrai que ce sera un journal aussi agrémenté de photos, mais voilà, un journal mensuel où on racontera, où on transmettra un peu notre expérience là-bas sur place. Nous, on se dit que ça nous fait aussi une activité. On est content de ne pas partir juste comme ça, voyager. Ça nous plaît de faire ce petit travail aussi.
C'est une façon de garder du contact, d'avoir un lien, alors bien sûr avec vos familles, mais aussi avec toutes les personnes qui vont vous suivre. Et on va voir dans quelles circonstances vous n'écrivez pas seulement pour vous.
C'est ça, ben, je pense qu'Olivier peut parler.
Oui, c'est vrai qu'on est content aussi de diffuser ce journal un peu plus largement, notamment par l'intermédiaire de la Ligue contre le cancer, qui nous soutient dans cette aventure. Parce que moi, l'année 2007 a été pour moi un peu difficile, puisque j'ai eu un cancer au pancréas. Une année compliquée, oui. Et puis, une année pendant laquelle, c'est vrai que j'avais toujours ce projet de voyage dans un coin de ma tête. Ça m'a bien aidé, bien sûr, à avancer. Et aujourd'hui, que j'ai la chance d'être à nouveau sur pied, je suis content de faire partager cette idée avec la Ligue que, ben, une fois que les traitements sont terminés, même si la maladie n'est qu'en suspens, on peut continuer à avoir des projets un peu loufoques.
Oui, oui, parce il est un petit peu fou celui-ci.
Si, il est un peu inconfortable, disons, parce que c'est vrai qu'il faut accepter les contrariétés du voyage, de l'isolement et puis de la vie à la dure, entre guillemets, parce qu'on va dormir dehors, on va manger dehors pendant longtemps.
Et puis peut-être de savoir aussi, de ne pas vraiment savoir totalement de quoi demain sera fait. C'est encore que bien sûr chacun peut le dire en se levant le matin,
vrai.
Mais là, vous prenez un petit peu plus de risques, on va dire.
C'est vrai, ouais. C'est une façon de voyager qui nous plaît. Mais voilà, en tout cas, ce journal, c'est aussi ça, c'est donner des nouvelles, c'est très amateur, parce qu'on n'est rien de journaliste confirmé, donc c'est vraiment des anecdotes avec nos mots à nous, et puis nos ressentis, et on espère que ça sera aussi une façon d'aider la Ligue dans son combat pour faire passer le message, oui, qu'on peut faire encore plein de choses après une maladie compliquée. L'autre bout du monde.
bercer ta voix à l'autre bout du monde. Ta voix qui me dit mon trésor, tout ce temps je n'étais pas mort, je vivais à l'autre bout du monde.
Émilie Loiseau, L'autre bout du monde, une chanson qui illustre parfaitement Carte blanche aujourd'hui sur RCF, puisque j'ai le plaisir de recevoir Claudine Arnaud et Olivier Beaureau, qui ont créé une association qui s'intitule À nouveau sur la route, suite à la maladie d'Olivier. Eh bien, ils ont eu envie de montrer que ce projet qu'ils avaient finalement avant, c'est-à-dire d'avoir envie de partir justement sur les routes du monde, eh bien, c'était un projet qui était réalisable, puisque vous partez exactement à quelle date, Olivier, Claudine ?
Par samedi prochain, samedi 14 février, on part de Nice à vélo pour un prologue Nice-Milan à vélo pour démarrer. Voilà.
Donc votre moyen de transport essentiel, ça sera quand même le vélo ?
Ce sera le vélo en Asie centrale jusqu'en Mongolie.
Ce vélo, c'est le vôtre, vous allez pouvoir le garder ou vous pensez que vous allez pouvoir le transporter, par exemple, lorsque vous allez prendre d'autres moyens de transport, le train, l'avion, tout ça, il va pouvoir suivre.
On va essayer. Je pense que dans les trains, dans les bus, parfois, si on a besoin, on saura les mettre sur le toit, on trouvera une solution.
Alors donc là, vous partez pour 6 mois d'abord sur la route de la soie, c'est-à-dire que ça va vous conduire jusqu'où ? Disons les grandes étapes.
Les grandes étapes, en fait, donc après ce prologue Nice-Milan, on prend un avion jusqu'à Istanbul, en Turquie. Et c'est d'Istanbul vraiment qu'on monte sur nos vélos direction la Mongolie. Avec comme étape marquante pour nous, en tout cas, c'est l'Iran, le pays suivant de la Turquie, donc c'est l'Iran. Et après le Kyrgyzstan, un des pays qui nous attire sur la route de la soie. Et puis la Mongolie. Donc il y a 6 ou 7 pays comme ça qu'on va traverser. Beaucoup de pays en ce temps, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kyrgyzstan. Et puis la Chine, la Mongolie, la Russie.
Comment est-ce que vous avez préparé ce voyage ? Parce que ce sont des pays qui font rêver, ces pays en ce temps justement, des pays de l'Asie, mais on sait bien aussi que ce sont des pays qui ne vivent pas du tout de la même façon que nous, où le confort, ne serait-ce que les routes par exemple, ne sont pas forcément non plus très accessibles. Comment est-ce que vous l'avez préparé ? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de la réalité sur place ?
C'est les forums, beaucoup de forums en fait sur internet. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur les routes en ce moment, qui y sont allées. Donc ils ont souvent des bonnes pistes, des informations qu'ils ont pu glaner à gauche, à droite. Et puis la littérature, c'est vrai qu'il y a des guides de voyage qui sont assez complets, où il y a des infos pratiques qui nous aident beaucoup. Donc voilà, en collectant un peu l'expérience des uns et des autres.
Et voilà, vous avez pu être assez précis sur le déroulement de votre itinéraire, de vos étapes, des endroits où vous allez pouvoir vous arrêter, souffler. Comment est-ce que vous allez loger, par exemple, Claudine ?
Alors en fait, les étapes ne sont pas définies à l'avance. On sait à peu près par où on va passer, mais c'est très aléatoire. Quant au logement, ça va être notre tente. On emporte dans nos bagages une tente. Et voilà, ce sera notre l'endroit où on pourra loger. Après, c'est vrai que on se posera peut-être parfois chez l'habitant, parfois aussi se prendre une petite douche dans les hôtels de temps en temps. Mais on n'a aucun itinéraire, aucune étape figée.
L'idée, c'est d'être ouvert, quoi, en fait. Hein. Et du coup, probablement à la rencontre possible.
C'est vrai que c'est la rencontre qui nous a toujours motivés dans tous ces voyages. Être disponible, finalement, et accessible. Parce que c'est vrai qu'à notre avis, c'est toujours plus simple de rencontrer des gens à pied, à vélo, enfin, dans des moyens de locomotion qui sont lents, finalement, et qui permettent d'être immergés. Et c'est comme ça qu'on a envie d'être disponible à la rencontre pour découvrir les cultures, les gens.
Il y a des outils, entre guillemets, qui vous paraissent importants, essentiels d'emmener. Bon, bien sûr, à la tente, on a bien compris. Mais d'autres choses qui permettent, entre autres, de rentrer en contact avec les gens. Parce que le langage peut être barrière aussi. Alors, heureusement, on a nos deux mains qui permettent d'exprimer certaines choses.
C'est vrai que les mains servent beaucoup. On a eu un super cadeau, là, qu'on connaissait ni l'un ni l'autre. C'est un petit livret de langage universel, en fait, où il y a des photos de de nourriture, des photos des couleurs, des photos des ustensiles, qui permettent de montrer et peut-être de se faire plus comprendre que quand on essaye de mimer
un
grain de riz ou...
Ça peut être un petit peu réduit, on va dire, comme façon de se débrouiller. Autrement, vous parlez anglais tous les deux ?
Un petit peu. On va se débrouiller.
On n'a pas un accent d'anglais extraordinaire.
On se débrouillera, oui. On se débrouillera.
On arrivera, oui.
Alors, donc, la dernière étape en Mongolie, c'est...
Alors, en fait, c'est la Mongolie, le pays où on arrive, mais après, on revient en train par le Transsibérien. Donc, on fait vraiment une boucle. On fait une boucle.
Ça aussi, c'est un train mythique, le Transsibérien. Vous parliez du train du désert en Mauritanie, mais...
Oui, c'est ça, mais ça fait partie des moyens de transport qu'on aime bien. Et les trains mythiques, on essaye de les prendre là, sur nos différents périples.
Combien de temps il faut là en train pour rentrer ?
C'est assez rapide, hein ?
Une petite semaine, hein. Une petite semaine.
Mais pendant laquelle vous ne descendez pas du train, entre guillemets ?
Oui, le train fait des étapes... Nous, normalement, on ne descendra pas à cause des vélos qu'on traîne avec nous. Il faut dire qu'en vélo, on a aussi une petite remorque. Olivier a une remorque derrière son vélo. Moi, j'ai juste des sacoches, mais pour pouvoir transporter un peu plus de matériel, on a pris cette option remorque qui va du coup être encombrante dans le train.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely.
Vous écoutez RCF à Saint-Étienne sur 94.7.
Et aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Carte Blanche avec Claudine Arnaud et Olivier Borot qui ont fondé récemment l'association À Nouveau sur la route, puisque après une maladie grave, eh bien, ils ont envie de montrer que l'on peut repartir et réaliser un projet qui leur tenait à cœur déjà auparavant, puisque c'est ce voyage autour du monde, un voyage qui se décline en plusieurs temps. Donc les 6 premiers mois, c'est la route de la soie. Et ensuite, vous allez... prendre quelle direction ?
Alors ensuite, ce sera en Afrique de l'Ouest, où on prévoit de visiter une partie du désert.
La route du sel.
La route du sel, voilà.
Donc ça sera de novembre 2009 à avril 2010.
C'est ça, donc à chaque fois, ce sont des périples de 6 mois, avec un retour en France d'un mois justement pour les examens de santé d'Olivier. Et ensuite, on repart 6 mois. Donc, le voyage suivant se fera en Afrique de l'Est et du Sud. Voilà.
Donc, le long du Rift.
Le long du Rift.
Mai 2010 à octobre 2010.
Et ensuite, on part pour l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Argentine.
De novembre 2010 à mai 2011.
Voilà, et on finirait par l'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge,
Le long du Mékong.
Voilà, voilà.
Et tout s'achève en décembre 2011, avec énormément de souvenirs, bien sûr, dans votre musette et dans les bagages de vos vélos respectifs. Alors, cette aventure, parce que c'est une véritable aventure, elle a nécessité aussi une organisation matérielle, parce que vous travaillez tous les deux.
Oui, oui, c'est vrai que on est tous les deux fonctionnaires, donc on est maintenant en disponibilité pour 3 années.
Donc en congé sans solde.
Congé sans solde, c'est ça. Donc il nous a fallu un peu économiser, parce que c'est vrai que c'est toutes nos économies qu'on met dans ce projet, c'est notre rêve, donc voilà. Et puis il a fallu s'organiser pour gérer à la fois la vie professionnelle d'abord, et puis en même temps tous nos préparatifs. C'est vrai que ça a été assez dense.
Mais en l'occurrence, vous avez des soutiens. Par exemple, vous travaillez au Conseil Général.
Oui, le Conseil Général de Nice là, nous apporte un soutien financier et puis nous permet en fait de réaliser ces impressions, les exemplaires d'impression de notre petit journal que l'on va offrir à la Ligue contre le cancer, qui les diffusera aux endroits qu'ils trouveront intéressants où ils seront disponibles. Donc voilà, ça c'est notre premier gros soutien. Et puis on a plusieurs partenaires qui nous ont fait des réductions, je pense aux magasins de vélo, des magasins d'articles de sport, plusieurs personnes qui ont eu envie de nous donner un petit coup de pouce. Et c'était pour nous très sympa parce que ça nous aide beaucoup.
Bien sûr. Et pour revenir à la Ligue, donc, puisque c'est un cancer que vous avez eu, Olivier, vous avez envie de soutenir les deux aspects dans le travail de la Ligue. Hein. Le soutien financier, vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire que chaque personne qui va vous soutenir à partir de 35 euros, il y a 5 euros qui reviendra à la Ligue contre le cancer.
Chaque adhésion, voilà, on a décidé de reverser nous 5 euros à la Ligue.
Et puis, y a tout cet aspect de montrer justement qu'après la maladie, il y a encore des choses possibles.
Oui. Je crois que la maladie, j'ai peu de choses à en dire, c'est assez difficile pour chacun et je crois que tout le monde fait face du mieux qu'il peut. Mais c'est vrai qu'une fois que les traitements sont finis, moi j'ai débordé d'envie et je suis content aujourd'hui de dire que j'ai à nouveau mes projets, je les reprends un peu en cours de route, on profite encore plus je crois, et j'ai bien sûr hâte qu'ils se réalisent, j'ai plus du tout envie de perdre de temps et de remettre à demain ce qu'on peut faire.
C'est une forme de témoignage aussi auprès des personnes malades, de leur famille, de l'entourage, de tout un chacun.
C'est mon histoire. Moi, je pense que ça dépend bien sûr de chacun. Moi, j'ai été touché quand j'étais dans mes traitements. C'était en radiothérapie en particulier. Il y avait dans une salle d'attente un article de journal d'une personne qui à Clermont. J'étais soigné à Clermont-Ferrand. D'une personne qui court le marathon aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, il a eu un cancer du poumon et il a subi l'ablation d'un poumon. Et je peux pas vous dire que ça m'a changé la vie de lire ça, mais ça donne du baume au cœur, ça me donne un petit sourire dans les journées un peu difficiles. Donc voilà, nous c'est moins un exploit physique, mais
malgré tout.
Ouais. Mais c'est vrai que si à notre tour notre histoire peut donner un peu une petite bouffée d'oxygène, et ça sera super.
Et justement, il est temps de vraiment expliquer comment on peut vivre à cela avec vous au plus près, en vous suivant et en soutenant aussi la Ligue contre le cancer dans son action. Vous avez donc évoqué plusieurs fois ce petit journal que vous allez adresser aux personnes qui vous soutiendront financièrement. Alors, est-ce qu'il y a une cotisation minimum que vous attendez ou bien est-ce que c'est une participation libre et comment est-ce que les gens peuvent le faire concrètement, Claudine ?
Alors, la participation est libre. C'est vrai que pour ne pas perdre d'argent dans la diffusion et l'impression de ce journal, on estime la cotisation minimum à 35 euros.
Et ça n'est pas obligatoire.
Mais c'est pas obligatoire. Moins. Voilà, tout à fait, vous pouvez donner moins. Donc les informations sont sur le site internet parce qu'on a créé donc pour que les gens nous suivent et puis comprennent notre projet, nous avons créé un site internet qui s'appelle anouveausurlaroute.fr.
Voilà, à nouveau sur la route tout attaché et sans accent sur le A bien sûr.
Voilà, donc tous les renseignements sont là, mais aussi les dons peuvent être faits en envoyant vos coordonnées sur papier libre.
Alors, à l'adresse suivante, 46 avenue de la République, 01 630 Saint-Genis-Pouilly, POUI 2LY. Je répète, 46 avenue de la République, 01 630 Saint-Genis-Pouilly. Donc là, vous avez la trésorière de votre association.
Voilà, donc il faut juste signaler que c'est l'association À Nouveau sur la Route.
Et donc, ce journal permettra d'être en lien. Vous allez revenir de temps en temps en France, régulièrement, vous l'avez dit, ne serait-ce que pour les examens d'Olivier. Ça vous paraît aussi important un petit peu se ressourcer, notamment près de la famille.
Oui, oui, je crois que ça nous fera du bien physiquement et moralement, parce que ça permet aussi de ne pas partir 3 ans comme ça sans, en perdant un peu de vue nos proches. Ça nous fera plaisir, je crois, de souffler. Je pense que si je n'avais pas été malade, on serait parti 3 ans d'affilée, finalement. Mais aujourd'hui, bon côté, c'est ça, c'est qu'on va profiter de nos proches plus facilement.
Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter ?
Une bonne route.
Oui, une bonne route. Une bonne route.
Une bonne route.
Eh bien, alors, c'est comme ça qu'on va terminer l'émission. Très, très bonne route à tous les deux. Que vous ayez l'occasion de faire énormément de rencontres pour venir ensuite, bien sûr, nous en parler au micro ici dans les studios de RCF. En tout cas, merci d'être venu nous rencontrer très peu de temps avant votre départ. Et puis, bon voyage.
Merci.
Merci à vous.